Bienvenue à toutes et tous dans l'émission de l'été, Les Faramineux, avec votre animatrice Arlette Farah et aujourd'hui avec moi Mathieu Tessier. Bonjour Mathieu.
Bonjour, on ne peut pas s'empêcher de danser dès qu'on entend le thème. Hein? Et c'est inévitable.
Je bouge, heureusement pour toi, je ne bouge que le haut de mon corps. Alors,
et ben moi, je ne bouge que le bas du corps, alors on se complète.
À nous deux, ça va le faire. Alors Mathieu, aujourd'hui, oui. Eh bien, tu as gentiment accepté de ne pas faire ta chronique pour parler avec moi d'une expo que nous sommes allés voir.
Merci d'ailleurs.
Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. C'est l'exposition Divina Dali, c'est l'allégorie de la Divine Comédie de Dante, qui est illustrée par Salvador Dali et qui est présentée au grand quai du port de Montréal. C'est jusqu'à fin septembre, je n'ai pas la date exacte, je vais regarder.
C'est octobre, je pense même.
Oui. Faut vraiment aller voir, c'est extraordinaire, on vous en parle dans un instant. Après, en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Catherine Dionne Foster, qui est fondatrice et principale actionnaire de la brasserie artisanale La Korrigane. Elle va nous parler de sa passion, qui est son métier. Et elle a un parcours tout à fait surprenant et ça va être un plaisir d'en discuter avec elle. Alors, on part en musique,
tout
Mathieu, avec Comment de bord, je me trouve laide. C'est pas moi, c'est la chanson qui le dit.
Je me trouve laide comme un itinérant qui traîne à la bibliothèque. Je me trouve laide comme un morceau de fuselage qui gâche le noir paysage de l'espace. Je me trouve laide comme des crustacés entassés dans un réservoir pour que tu puisses mieux les voir. Et ce soir
soir, dans un bar, je suis Alors nous voici de retour, sachant que cette exposition dont on vous parlait il y a un instant va durer jusqu'au 31 octobre.
C'est exact.
Donc merci Mathieu d'avoir fait la recherche. Vous avez le temps d'y aller, mais allez-y, ça vaut vraiment le coup. On vous en parle dans un instant. Alors pour commencer, parlons de Dante. Dante est un poète humaniste et je rajouterais politicien. Oui, je sais, humaniste exact. Et politicien, ça ne va pas vraiment ensemble aujourd'hui.
Exact,
mais
c'est ce
à
que
cette époque-là, ça pouvait le faire. Donc Dante était né, hein, Mathieu, d'une famille quand même assez riche et... Il vivait à Florence, puis à cette époque-là, il y avait des guerres entre comtés. Mmh. Autres duchés, pas comtés. Et puis Florence, donc, on demande à Dante de partir en tant que politicien, de représenter Florence. Et au moment où il s'en va, eh bien, les opposants à ceux que soutient Dante prennent le pouvoir sur Florence et Dante se retrouve exilé. Voire même condamné à mort. Donc, ouais, interdiction de revenir à Florence. Dante, quand il a écrit ça, à l'âge, on ne se rend pas compte quand on parle des enfants, mais à l'âge il rencontre à 9 ans Béatrice, celle qui restera toujours dans son cœur. Il la revoit quand il a 20 ans. Il ne se passera jamais rien. Et c'est d'autant plus important quand ça ne te prend que dans la tête.
Une vraie relation platonique, en
oui.
fait.
Totalement, mais avec tout ce que ça peut donner. Puis cette époque, on est en 1309, 1310, enfin quelque chose comme ça, 1303, je ne sais plus, au début de 1300. Et donc, il demeurera toute sa vie, même s'il se marie avec quelqu'un d'autre, et si elle se marie de son côté, il demeurera toute sa vie amoureux de Béatrice. Béatrice qui a vraiment existé, puisque quand on parle de la Divine Comédie, on parle de Dante comme étant... que peut-être Béatrice représentait l'exploration de l'être humain, mais il paraîtrait qu'elle a vraiment existé.
Et c'est depuis ce que je trouvais beau historiens. Aussi dans l'exposition, c'est que autant Dante s'est mis en scène avec Virgile et Béatrice, on retrouve des gens dans la vie de Dali quand il a fait les illustrations.
Oui.
C'est intéressant. Il se l'est vraiment approprié.
Et puis, quand tu parles du jeu, c'est le premier, je crois, qui a écrit en se mettant en scène en disant « je », en faisant son histoire. Donc, il admirait beaucoup Virgile, évidemment.
Ça lui a pris 18 ans à écrire. Ouais, en fait, c'est un peu... Les dates sont de 1303 à 1321, donc environ 18 ans pour écrire.
Tu te rends compte?
Et il est décédé en 21, donc ça a été probablement sa dernière... Ben, pas probablement,
mais lui,
sa dernière œuvre.
Il est décédé, pour selon que nous étions en 1300 et quelques, il est décédé, il arrivait vers la soixantaine, ce qui était une très belle vie à cette époque-là, alors que Béatrice, elle est décédée à 24 ans, et il s'en remettra jamais. Voilà. Donc il décide d'écrire la Divine Comédie en prenant... Le langage des écrivains auxquels il mêle le langage de la rue. Mmh. Et on dit que c'est avec lui qu'a commencé véritablement la langue italienne.
Oui, en fait, c'est ça. Il refusait en fait, d'écrire en latin parce qu'il considérait qu'un poète devait écrire dans sa langue vernaculaire. Oui. Et c'est ce qu'on a appelé aussi le florentin vulgaire. C'est dans
je
la
sais
langue.
Pas pourquoi. Ben oui, en fait,
vulgaire,
parce que tout le monde le comprend,
exact.
Quoi. C'est ça.
Ouais.
Vulgariser, parce que il y a des sens de mots qui ont changé depuis. Donc.
Je ne pense pas qu'il s'accrède.
quand on le dit comme ça. Donc, à travers ce livre, il fait son voyage initiatique avec son maître absolu. Donc, il rencontre le fantôme de Virgile qui lui apparaît dans une forêt. Et là, c'est son immense introspection. Donc, cette expo commence, on rentre dans l'enfer, disons-le.
Oui, on rentre par la porte en arrière, comme dirait mon grand-père.
On rentre dans l'enfer, dans le côté des péchés. Il me semble qu'il y a 9 cercles, c'est ça?
Dans la Divine Comédie de Dante, effectivement.
Et 9 cercles de l'enfer, dans l'enfer. Et le 8e cercle, c'est les fraudeurs. Et le 9e, les traîtres. Ah tiens. Extra... Ah non, je ne fais pas de lien. Ah non, je ne fais pas de lien. Non, non, c'est... je... On trouve qu'il a... Pardon, qu'il a une certaine empathie pour les condamnés. Peut-être qu'il se retrouve dans ses péchés parce que même s'il fait un travail sur lui, lui aussi a été jaloux, méchant,
ben oui.
Voleur, etc. Donc, c'est extrêmement bien fait. On va parler de Dali qui a été... qui a travaillé là-dessus. Dali, on lui propose... D'abord, on lui propose 10 ans avant qu'il expose. Il me semble que c'est une bonne dizaine d'années avant. On lui propose de faire une exposition sur Dali, puis comme sur Dante, pardon. Et puis comme les époques changent, les gouvernements aussi.
Comme il n'est pas italien aussi.
Oui, il n'est pas italien. On décide que ça doit être fait par un italien. Donc lui récupère ce qu'il a commencé à faire. Et après, il décide de les proposer et de le mettre. Donc, c'est pour ça que ça se passe en 1960, hein, c'est ça.
Exact. Il a pris quelque chose comme 4 ans pour faire toutes ses... Ben, j'ai dit illustration, mais toutes ses œuvres. 101 œuvres.
101.
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la technique qu'il utilise, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite.
Oui, oui.
La xylographie, en fait, c'est des impressions. Et pour faire des impressions de couleurs, donc toutes les couleurs qu'on voit sont ajoutées une après l'autre. Et pour que chaque couleur demande une gravure. Et quand on regarde la quantité de couleurs qu'il y a dans l'étoile, oui. Ça veut dire que pour chaque couleur, il a dû faire une gravure. C'est quelque chose comme 3500 gravures pour faire les 101 images qu'on voit. Parce que chaque gravure appose une couleur.
C'est fou ce boulot.
On dit que c'est une des œuvres qu'il lui a demandé le plus, parce que c'est... malgré qu'il était un des plus prolifiques, mais juste pour ce contrat-là, juste pour cette exposition-là, il a dû en faire près de 4000.
Je trouve ça extraordinaire. Il paraît qu'il s'est inspiré des estampes japonaises.
Exact. Oui, il a modernisé cette technique-là.
Oui. Ah, fabuleux. Hein? Combien t'as dit de temps qu'il avait travaillé? Moi, j'ai lu 14 ans.
Pour la
réalisation,
on parle de Dali?
Oui, de Dali. Pour la réalisation des aquarelles, parce qu'il les a commencées 10 ans avant quand on lui les avait commandées. Après, on lui a dit non, il a continué à travailler dessus. Et quand il les a sorties, ça lui a pris 14 ans, pas 4 ans. Ha ha ha! C'était très
J'ai probablement lu qu'il a pris 4 ans pour les faire. Je ne pense pas qu'il les a peut-être faites consécutivement, mais ça se peut, je me suis trompé dans les chiffres.
Sur le temps, entre ce qu'on lui avait demandé, ce qu'il avait abandonné, qu'il a continué ensuite à faire, donc tout ce laps de temps, sans parler de son travail aussi, a pris 14 années avant que ça ne sorte. Voilà. On part en musique un petit peu avant de...
Oui, on va écouter « Les gens », une chanson de Robert Robert.
Allez.
Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres, mais au fond, ils se foutent du ciel, c'est pour les sept astronautes. S'ils vivent le long d'un côte, c'est pour être pris pour un phare et planer la marée haute quand leur vie est en retard. Oh, oh. Les gens faciles, les gens qui en valent la peine, les gens qui pleurent, les gens qui pendent des ficelles, les gens rêveurs qui veulent une vie républicaine, les gens qui rient, les gens qui parlent d'eux. Oh, les gens
repartons avec Dante et Dali. Alors, il faut savoir que Dante a écrit d'abord... dans cette exposition, non, je reprends. Dans cette exposition, il y a plusieurs phrases de Dante. Et moi, il y en a une que j'ai lue qui m'a interpellée plus que les autres parce que, réfléchissons bien, c'est écrit en 1318-1315. Ça fait très très longtemps, on est d'accord. Donc, la phrase qui m'a interpellée est la suivante. « Certains attendent que le temps change, d'autres le saisissent avec force et agissent. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'on pourrait le dire maintenant aussi.
Tout à fait. Moi j'en ai une. En fait, j'ai bien aimé la version anglaise de cette phrase-là. Je vais vous lire les deux, en fait.
Ah oui,
la phrase disait « To have heard without retaining does not make knowledge. » Et en français, ils l'ont traduit « Amour entendu sans retenir ne fait pas la science.
» C'est magnifique. On passerait... moi, je la referais, cette expo, pour reprendre le temps devant chaque tableau qui m'a interpellé. Oui. Voire même peut-être d'autres qui ne m'ont pas interpellé de la même manière et que je vais regarder d'une autre façon.
C'est ce qu'on se disait hors micro, oui. Que c'est une exposition qui... Moi, personnellement, mais je pense que c'est la même chose pour toi, qui m'habite encore et qui non seulement me redonne le goût de lire, parce que je n'ai pas la patience de lire la Divine Comédie au complet, mais du moins là, il a renouvelé mon intérêt envers ce texte.
Moi aussi, ça m'a donné envie de le lire ou alors de l'écouter en livre audio, mais de refaire ça c'est sûr. On parle un petit peu du titre, parce qu'à cette époque, il l'avait appelé Comédia, donc comédie tout seul. Pourquoi ? Parce que ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Non, et que la comédie, parce que c'était quelque chose qui finissait bien, puisque Béatrice l'attend au paradis. Donc, ça finissait bien, il l'avait appelé comédie. Vu le sens que ça a pris aujourd'hui, plus tard, je ne sais pas combien de temps après, bien plus tard, on a décidé, comme quand même il part en enfer, puis au paradis, puis au purgatoire, de mettre divine devant, bon, de l'appeler la divine comédie. Mais le titre de base, c'était comédia. Ouais.
Voilà. En fait, c'est ça, une comédie en termes littéraires, surtout au Moyen-Âge, c'était après un départ douloureux, le héros a une belle fin.
Voilà. Ben, le héros a une belle fin, il retrouve Béatrice. Parce que... Alors ça, c'est beau aussi dans l'histoire, c'est que Virgile, étant né en 70 avant Jésus-Christ, lui n'a pas... Donc, le paradis n'était pas là. Donc, il ne pouvait pas rentrer au paradis. Donc, quand Dante arrive, c'est Béatrice qui vient le chercher.
Mm-hmm.
Oh, c'est beau. C'est une belle histoire d'amour.
En fait, oui, puis... Comme je vous dis, je ne suis vraiment pas un spécialiste de Dante. Et je ne suis pas un spécialiste de ce texte-là. Mais avec les thèmes amenés par les illustrations de Dali, on se rend compte que notre cheminement, tous nos doutes, c'est un questionnement universel depuis que homme est homme. Moi, je dis homme avec un grand H, mais avec parce que on parle d'envie, on parle de luxure, on parle de doute, beaucoup de doute, hein,
beaucoup.
Ça n'a pas été un chemin, un processus linéaire dans le cas de Dante. Il y a des magnifiques images justement sur le doute où tu vois le visage de Dante qui est entre la douleur et le sourire. C'est vraiment vraiment bien fait.
Alors, parle-nous un petit peu plus de Dali. Moi, j'avoue que dans l'expression qu'on a fait Dali, j'ai été plus touchée ou plus habitée, je ne sais pas comment le dire, par l'enfer, qui était plus puissant dans ses œuvres. Même si quand on arrive au paradis, c'est très lumineux et qu'il y a d'autres choses dans le purgatoire, j'en ai trouvé aussi. C'est pour ça que je veux le refaire une deuxième fois pour.
Et c'est une exposition
pour
aussi.
Le voir autrement.
Ils appellent ça une exposition spectacle parce que chaque pièce, l'exposition suit les trois textes de la Divine Comédie ou de la Comédie, et ils sont chacun accompagnés par une ambiance sonore. Donc, on est en enfer, on est au purgatoire et on est au paradis, et c'est trois éléments sonores, trois ambiances sonores complètement différentes.
Puis les lumières, parce que quand on arrive au paradis,
aussi,
il y a plus
aussi,
de lumière.
Aussi.
Donc,
puis il y avait aussi de magnifiques photos dans le cadre de l'exposition qui avaient été prises en 1960 lorsque Dali avait présenté son exposition. Et c'était des photos qui sont prises par, là je cherche le nom, Robert Ducharme, je pense. Mais je vais vous revenir, j'ai perdu ma page. Mais l'exposition, dans le document qu'ils nous ont donné, dit que l'exposition est venue de la rencontre entre l'idéateur de l'exposition,
oui.
Félix Bélanger, et de Frank Hunter, qui est l'archiviste, si vous voulez, officiel de Dali, qui est un Américain et qui est connu internationalement comme celui qui est le spécialiste en matière d'authentification. Donc, on peut pratiquement peu douter que toutes les œuvres qu'on a vues dans l'exposition, les 101 œuvres, sont de Dali, parce que des fois, la facture, en se promenant, on reconnaît la facture de Dali pour certaines images. Il y a des personnages, il y a de la béquille. On reconnaît immédiatement le trait de Dali, et d'autres qui sont plus brouillons, toujours contrôlés, mais tu dis « oh, diantre ».
Alors, moi, je suis pas une grande connaisseuse de Dali. Toi, le fait que tu sois artiste peintre aussi, t'as peut-être donné une autre vision de tout ce qu'on a regardé. Moi, ça m'a parlé plutôt au ventre. Et j'ai été absolument fascinée par les ombres des personnages, par les silhouettes des personnages qui sont complètement distendues par rapport à la taille du personnage et qui donnent un effet d'optique absolument fascinant.
La perspective, c'est une grande force de Dali d'ailleurs, mais la perspective dans des petits... Ils sont pas très grandes, les toiles.
Non.
Il est capable de jouer avec la perspective qu'avec un seul trait de plume. C'est j'ai vraiment moi aussi envie d'aller le revoir.
Oui.
Je sais que les images, les illustrations ont été publiées dans un livre, mais de les voir sur place, c'est fantastique. Franchement, je n'ai que des bons mots.
Alors, écoutez, si on vous donne envie, allez-y. C'est présenté au Grand Quai. Au Grand Quai. Pourquoi je veux dire Quai ?
Je sais
pas. Au Grand Quai du port de Montréal. c'est absolument un moment magique et délicieux. Voilà, c'est notre conseil du jour, Mathieu, on peut
exact.
Dire ça comme ça ?
Oui.
Allez, alors on part en musique ?
Oui, Pink Martini.
Ah oui, Ma Solitude.
Exact.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde.
Non, je ne suis jamais seul. De mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût? Que je réagisse. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle, j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne les a. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Et voilà, donc allez à cette expo, c'est tout ce qu'on vous dit. Maintenant, dans la prochaine demi-heure, eh bien, on va parler avec Catherine Dionne Foster, fondatrice et principale actionnaire de la brasserie artisanale La Korrigan. Alors ça, je suis très intriguée, puis j'ai très hâte qu'elle nous raconte un parcours qui est très particulier, n'est-ce pas?
Oui, tout
c'est,
à fait.
J'ai hâte de l'entendre. Alors, à tout de suite, restez avec nous.
Écoutez Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Fara.
Souviens-toi, moi je n'oublie pas, j'y repense souvent. Je revois ton visage et j'entends parfois même ta voix. Je sais que tu comprendras, j'ai oublié, je ne sais pas.
Alors, on vient d'entendre Alex qui nous chantait comme dans les films.
Exact.
Et peut-être qu'on pourrait faire un film de la vie de notre invité. Qu'est-ce que t'en penses?
Parce que c'est une très bonne idée.
C'est vraiment avec son parcours, ça vaudrait le coup. Alors, Catherine Dionne Foster est avec nous. Bonjour, Catherine.
Bonjour, Arlette.
Ça va bien? On est content de vous recevoir et on est très intrigués par votre parcours.
Et on a très contente aussi d'être invitée.
Très envie d'en parler. Donc, vous avez commencé. Alors, bien sûr, on va parler de brasserie artisanale, on va parler de la bière, on va parler de tout ça. Mais en même temps, surprise, Catherine a travaillé, a été géologue, elle a étudié en sciences avant d'être dans la brasserie artisanale. Alors Catherine, est-ce que papa a influencé le futur?
Oui, certainement. Je dirais pour mon choix de carrière dans la géologie et aussi pour mon entreprise dans le milieu brassicole.
Est-ce que c'est le fait d'avoir travaillé quand on est géologue, on aime la nature, on étudie, il y a plein de choses qui se font. Est-ce que ça a aidé pour la brasserie? Est-ce que ça a donné comme une nouvelle teinte, voire même nouvelle saveur, même ce qui irait mieux?
Oui, ben moi, c'est ça. Je suis vraiment une passionnée de nature, de pêche, de chasse, de cueillette. J'aime beaucoup me retrouver en forêt. Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'avais choisi la géologie. Je voulais travailler à l'extérieur, partir à l'aventure, découvrir les grands espaces. Puis, dans la bière, c'est certain que ça influence quand même mes recettes. J'aime beaucoup incorporer des plantes de la forêt boréale. Oh. Donc, ouais.
Ça me fait envie.
Ça me fait envie. Ça donne des saveurs particulières, ouais, et uniques, je trouve, à la bière. C'est vraiment intéressant.
Et puis, vous avez fait, c'est aussi tout ce que vous avez vécu, parce que j'ai vu que vous aviez vécu petite en Afrique centrale.
Oui, en Afrique centrale, au Burundi, de 1987 à 1990, avec mes parents, ma petite sœur, donc pendant près de 3 ans, oui.
Et après, dans votre premier travail de géologue, vous allez dans le Grand Nord.
Ah.
Dans le Grand Nord, oui, j'ai travaillé au nord du Québec, près de Saluit. J'ai travaillé aussi à la baie James, dans le nord de l'Ontario, à Vancouver, nord du lac Saint-Jean. Donc, mon ancien travail m'a amené à plein de beaux endroits magnifiques, notamment la toundra, là, c'est vraiment merveilleux.
Alors, j'ai lu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de femmes qui brassaient la bière, qu'il y avait seulement 6 femmes qui gèrent cette forme d'entreprise, mais au Québec, hein, je parle.
Qui gère ce genre d'entreprise, il y en a quand même plusieurs, mais qui brassent la bière, on est très peu au Québec.
Oui,
oui. Ouais. Puis, si on parle des postes en production brassicole, donc là, pas seulement brasser, mais toutes les tâches connexes qui touchent la production de bière, on représente à peu près les femmes 10% wow. des postes en production. En France, c'est beaucoup plus, hein. Vraiment, là, les femmes sont beaucoup plus présentes dans la production de bière en France qu'au Québec.
Ben, ça va arriver. Et puis, vous allez donner l'exemple aussi.
Oui, j'espère bien. J'espère bien donner le goût à d'autres d'avoir envie de faire ça. C'est vraiment un métier qui est super passionnant. Puis, ouais, vraiment, on s'amuse.
On va parler de cet endroit. Alors, on commence dans votre entreprise. Vous servez, disons que vous faites beaucoup marcher les entreprises locales québécoises autour de chez vous.
Oui, c'est l'achat local.
L'achat local avant tout.
De mes valeurs. Oui, avant même que je passe l'entreprise, pour moi, c'était vraiment important. Là, même d'ailleurs, moi et mon conjoint, on a déjà fait une année complète qu'on achetait que des produits alimentaires du Québec pendant une année complète. Sauf le café et le vin. C'est les deux seules choses qu'on se permettait qui venaient de l'extérieur.
C'est toujours bien une limite.
Et c'est bien. Et pour vos employés, vous avez mélangé les genres.
Oui, plus. Oui. Je travaille avec... j'aime beaucoup être en contact avec la diversité, Donc, la diversité des âges, des genres, la diversité culturelle aussi. Donc, moi, c'est vraiment la clientèle aussi de la Korrigan est vraiment à cette image-là. Donc, c'est hyper diversifié, hétéroclite. C'est vraiment dynamique comme milieu. Puis donc, autant au niveau de l'équipe que de la clientèle et le quartier aussi, quartier Saint-Roch à Québec, qui est comme ça. Donc,
alors, on a Mathieu ça, à la technique qui connaît bien parce qu'il est de Québec.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est la raison? Ben, moi, ça fait 20 ans que je suis à Montréal. Saint-Roch ne ressemble pas à ce que c'était à la fin des années 90. Je sais que le quartier s'est immensément développé, mais c'est une des raisons pour laquelle vous êtes allé vous installer là.
Oui, oui. Ben moi, j'habitais dans le quartier Saint-Roch avant de partir la Korrigan avec mon conjoint. On avait un condo là, puis j'adorais le quartier. Vraiment, là, c'est ce côté-là, justement, super diversifié là, que j'aimais, où tous les types de personnes se côtoyaient dans un même quartier. C'est encore ça. Et notre entreprise est vraiment à l'image du quartier là, et la clientèle qui la compose.
Alors, vous allez nous parler tout bientôt de la création des bières, de vos idées, justement, avec cette curiosité insatiable que vous avez de tout. Ça vous donne des idées, des déclics pour les bières?
Oui, vraiment. D'ailleurs, tantôt, je parlais de plantes sauvages. J'ai fait une bière. J'ai été la première à faire une bière avec un champignon qu'on appelle le lactère à odeur d'érable. Donc, ça donne un goût. Ouais, ça donne vraiment... c'est très aromatique comme champignon, là, surtout quand il est séché. Donc, ça donne vraiment un goût, des arômes d'érable là, très puissant, un petit peu de biscuit à l'érable. Donc, c'est vraiment intéressant. J'avais incorporé ça dans une rousse. Par la suite, on avait fait ça en petit brassin test, là, un 20 litres, puis on l'avait servi au client. Les gens avaient bien apprécié. Par la suite, on l'a refait là, en petit brassin, puis on a fait quelques fois là, des 500 litres. On utilise aussi le thé de Labrador. On a fait une bière Lamarouk, qui est une Hefeweizen, donc une blanche d'inspiration allemande.
Vous commencez à donner soif à tout le monde.
Oui. Aromatisé avec du thé du Labrador. Puis d'ailleurs, avec celle-là, on a gagné une médaille d'argent. Bravo. En 2017 à un concours canadien, là, le Canadian Brewing Award.
J'aime beaucoup la Hefeweizen.
Bravo. Alors, on va se faire une petite pause musicale et puis après, on va parler de quelque chose qui nous tient aussi à cœur, hein, Mathieu à moi, parce qu'on est tous les deux des becs sucrés. C'est des confiseries et des pâtisseries à la bière que vous avez développées. Mais on en parle tout de suite après ça, d'accord?
D'accord.
Restez avec nous.
Il s'en allait, six ailleurs, l'esprit fermé. Son haleine de remords, ses bottes sillons traînent le trottoir, sa vieille guitare, son allure de clochard. Mais heureusement, le bonhomme savait rire encore. Mais son chien lui avait faim, juste comme ça, il s'appelait Balthazar. Une poignée de change qui dans ses poches danse pendant qu'une poignée de change dans mes poches chante. They see me flying like a hobo, my soul unwanted man, oh
fêtes, le vleu toujours en solitaire, en tour de la terre. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il peut faire? En tour de la terre, c'est bien mieux qu'en neige. Y'a-tu quelqu'un qui peut avoir juste pour me, puis mon bâton de Balthazar? Dans ses poches, je danse pendant qu'une poignée de change dans mes poches, je chante. They see me fly like a hobo, my soul unwanted man, oh Lord. They see me fly.
Alors, on vient d'entendre Raphaël Denomé qui nous chantait Le Clochard. Mmh. Et nous revoici avec Catherine. Et Catherine, avant qu'on parle des pâtisseries qui se font à base de bière, vous allez nous expliquer avec quoi et comment. On n'a pas parlé du nom, la Korrigane, ça vient d'où?
La Korrigane, c'est le nom d'un bateau d'exploration qui a exploré... surtout les îles du Pacifique Sud, là, en fait, ils ont fait le tour du monde. À son bord, il y avait 5 jeunes Bretons dans la mi-vingtaine qui étaient passionnés de voyage, d'exploration, d'art, d'ethnologie. Donc, eux avaient transformé un ancien morutier d'Islande en goélette d'exploration. Et ils l'ont nommé la Korrigane parce que eux, ben, c'était des Bretons. Et un Korrigane ou une Korrigane, c'est... Un personnage de contes et légendes bretonnes.
Ah, merveilleux! C'est bon à savoir aussi. Donc, maintenant, parlons un petit peu de ces recettes de pâtisserie à la bière. À partir de quoi elles sont faites? Comment elles sont faites? Moi, je suis très gourmand. Nous, on est très gourmand avec Mathieu.
Oui, d'ailleurs, c'est un peu injuste de nous faire ça avant l'heure du dîner.
Oui, mais Mathieu, quand tu iras à Québec, tu vas aller faire le plein chez certain. Catherine et puis tu nous ramènes. Alors...
Oui, alors ben c'est ça, en décembre 2020, on a développé avec le chef pâtissier des pâtisseries à la bière et à la drèche de microbrasserie. Donc, il y a d'autres produits qui sont en cours de développement présentement, qui vont toucher plus la boulangerie. Mais actuellement, on a développé quand même quelques pâtisseries qui sont bien appréciées, notamment des beignes. Donc, on a plusieurs sortes de beignes qui sont farcies, soit avec un crémeux ou un confit, qui va toujours être faite à base d'une de nos bières.
J'ai faim!
Ouais, et je donne des exemples. On en a un citron IPA. Présentement, on a le beigne d'été qui est la bière dont je vous parlais tantôt, du Labrador, la Marouk et fraise. Donc, c'est vraiment très bon. Le thé du Labrador se marie à merveille avec la fraise. Mmh. On a aussi un biramisu. Donc, celui-là, c'est vraiment plus aller chercher le petit côté stout, donc le côté café, chocolat noir de la bière stout. Pour vous en nommer que quelques-uns.
J'en veux. On va envoyer Mathieu chez vous.
Ouais,
il va nous en acheter.
Le danger, tu sais ce qui va arriver. Hein, c'est que...
Non, pas que tu les manges en route.
Non, mais c'est ça le danger. C'est que c'est quand même long, la route entre Montréal et Québec.
Oui, évidemment, les beignes, ben, c'est toujours meilleur quand c'est frais du jour. Donc, nous, tous nos beignes sont frais du jour. Si on les achète, il faut les manger le jour même. C'est ce qu'on conseille aux gens. Ils sont comme vraiment meilleurs.
Mais puis, il les achètera juste avant de partir le matin. Il nous l'amènera dès qu'il rentre le jour même.
Pas. On a aussi développé du pop-corn au caramel à la bière. On a des truffes chocomalt avec un enrobage de cacao et de drèche.
Donc, qu'est-ce que c'est la drèche?
La drèche, en fait, c'est un coproduit de brassage, c'est le résidu de céréales qui reste après avoir fait l'infusion du malt, donc l'orge maltée ou le blé. Donc, on peut avoir un mélange d'orge, de blé, parfois un petit peu d'avoine ou de seigle là-dedans. Donc, la drèche, c'est un coproduit qui est très peu valorisé présentement. Mmh. Donc, la majorité des brasseries, soit vont l'envoyer au compost ou vont le donner à des éleveurs de bétail pour nourrir le bétail ou vont simplement le jeter aux déchets. Donc, nous, on essaie de trouver des façons de revaloriser ce coproduit-là.
Bravo pour ça.
Donner une deuxième vie.
Vraiment bravo pour ça.
Différents produits.
Alors, il y a un restaurant. D'abord, l'adresse. On donne l'adresse?
Oui,
pour ceux qui passent par Québec.
380 rue Dorchester, à Québec, dans le quartier Saint-Roch.
Voilà. Donc, il y a un restaurant. Et à l'intérieur de ce restaurant... Il y a même un volet culturel parce que Catherine, elle fait tout ce qui la rend curieuse. Elle mélange tous les genres et comme ça, c'est merveilleux. On a un tout en un quand on rentre.
Ben, présentement, c'est sûr que le volet culturel
avec ce qui se passe, c'est un petit peu plus difficile.
Oui, c'est quand même assez tranquille à ce niveau-là, mais en dehors du contexte de la pandémie, on a presque à chaque jour, on a des événements. On peut avoir des lancements de livres. On est souvent partenaire avec le Festival de BD de Québec. Donc, on va avoir des expositions de BDistes. On a des vernissages. On a une ligue d'improvisation qui jouait tous les dimanches. On a même une fois par mois un éco-sinoche. Donc, avec un organisme de l'Université Laval qui s'appelle Univers Laval. Ils diffusent des films à saveur environnementale une fois par mois, les lundis.
C'est extraordinaire.
Et on a aussi des soirées swing. Donc, un mercredi sur deux, on avait des professeurs qui viennent enseigner le swing à qui veut bien l'apprendre, initier les gens, puis
c'est
tout
super.
Simplement ceux qui savent déjà danser puis qui ont envie d'un endroit pour danser le swing. Ouais, donc
c'est formidable.
Plusieurs événements vraiment fun. Nous manque.
Ah ben oui, ça je comprends, et à nous aussi. Catherine, avant qu'on termine l'entrevue, Mathieu avait une question sur la fabrication de la bière avec quelque chose qui était sorti de son cerveau, mais ça n'engage que lui. Hein.
Mais pas seulement par rapport à la fabrication de la bière, mais est-ce qu'on peut mélanger des minéraux avec... Est-ce qu'on peut consommer des minéraux? Je sais que qu'on a besoin de minéraux, notre corps a besoin de minéraux, mais avec votre expérience de géologue, est-ce que vous avez déjà pensé de rajouter des minéraux dans la bière ou dans les pâtisseries? Est-ce que ça se fait?
Mais on rajoute déjà des minéraux dans l'eau lorsque l'on brasse. Parce qu'il faut qu'on ajuste la dureté de l'eau, dépendamment du style de bière qu'on veut brasser. Donc, ça va donner un profil différent là, au niveau des saveurs, tout ça. Donc, tout à fait. C'est déjà une pratique qui est utilisée couramment. Et par contre, dans les pâtisseries, non, j'ai pas pensé à ça.
Est-ce que c'est des minéraux locaux?
Non, c'est pas nécessairement local. Là, on achète. C'est en très petite quantité là, qu'on met juste pour ajuster la dureté de l'eau. Là.
Eh bien, alors, Catherine, on arrive à la fin de cette entrevue. Catherine John Foster, donc on répète encore l'adresse à Québec.
Catherine. 380 rue Dorchester, dans le quartier Saint-Roch, centre-ville de Québec.
Alors nous, on veut vous dire merci d'avoir accepté cette entrevue et bravo pour ce que vous faites, vraiment. Je peux vous dire que mon prochain voyage sur Québec va s'arrêter chez vous, c'est sûr.
Ben, ça va me faire plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup à vous, on vous dit au revoir et puis bonne continuation, puisque je présume que ça demande beaucoup de travail et que ça a pris une petite partie de votre temps.
Oui, donc, certainement.
Alors, bonne continuation à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
On se quitte en musique avec JP Dalpé qui nous chante « L'Éden à ses pieds ». On revient avec Dante.
Elle pleure à cœur de jour, les années perdues, les amours. Les jours sombres s'accumulent, le temps joue, les têtes de mule.
coincée entre les os et la chair, entre l'extase et la mal, les faux amis, le célibat, reste pendu à son bras. J'espère que le vent va tourner, poser les dents à ses pieds, juste pour elle, je crois encore qu'il existe un autre décor. Je sais plus quoi lui dire pour lui redonner le sourire, qu'à travers toutes ces histoires, elle entrevoit un peu d'espoir. Et qu'entre les eaux et la chair, entre l'extase et la mer, les faux amis, le célibat, elle puisse s'accrocher à mon bras.
Voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission. On commence les remerciements. Donc d'abord, ben, merci à notre recherchiste Claire Guérin. Ben, c'est elle qui nous a trouvé Catherine Dionne Foster. C'était une belle entrevue et ça faisait plaisir d'apprendre de cette femme passionnée comment ça se passe, d'apprendre un petit peu comment ça se passe. Et puis, ben, merci à vous toutes et tous qui nous avez écoutés. Puis j'espère qu'avec Mathieu, ben, on vous a donné envie d'aller visiter cette expo qui s'appelle Divina Dali et qui est présentée au Grand Quai du Port de Montréal. Vraiment, ça vaut le coup, donc profitez-en. Que vous connaissiez la Divine Comédie, que vous ne connaissiez pas, que vous connaissiez Dali ou pas, allez les voir, ça apporte quelque chose.
Ça peut aider de le lire avant, mais je pense que vous n'y perdrez rien si non. Vous n'avez pas lu. Enfin, parce que ça va certainement vous donner le goût de le lire.
Oui, en tout cas, ouais. Oui, parce que moi, c'est ce que ça m'a fait aussi. Donc, ça m'a donné le goût de retourner dans les classiques. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci à toi, Mathieu, d'avoir fait la technique, d'avoir trouvé les chansons et d'avoir participé à l'émission aussi. Et c'est que... Et on rigole, mais c'est du boulot. Donc, faut aussi être conscient de tout ça. Quant à moi, bien, je vous dis à demain. Alors, demain, soyez là, quoi. Aussi, ça va être encore une belle émission. Je vous attends. Et puis, j'espère que vous êtes contents de votre été. Alors, bonne continuation à tous. Au revoir.